Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Frank Capra, 1897-1991. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui a débarqué de Sicile à 6 ans, de celui qui est devenu un des cinéastes les plus célèbres des années 30, de celui qui filme les scènes de pluie comme des scènes de joie et qui n'a jamais cessé de croire au rêve américain. Il y a beaucoup de photos de Frank Capra. Des photos de lui jeune en nœud papillon, cheveux gominés, la raie sur le côté, et une petite caméra à la main, sur lesquelles il semble interpeller le photographe. D'autres où il fume la pipe ou la cigarette. Il a le regard en coin et son sourire a du charme. Il pose toute sa vie, et toujours en cinéaste. Et si c'est en cinéaste qui réussit, c'est encore mieux. Pantalon bien coupé, veste de sport, casquette de velours ou chapeau mou, il est debout derrière sa caméra, ou en train d'examiner des morceaux de pellicule, ou sur une plateforme, le mégaphone à la main, en train d'écrire. Il est assis dans la mythique chaise pliante des réalisateurs d'Hollywood, ou en train de diriger des comédiens. Il semble toujours présent, et définitivement au travail. Plus vieux, il pose hilar et radieux, en smoking pailleté, écumant les cérémonies honorifiques. Il l'a bien mérité, il le sait. Et personne ne lui volera son plaisir d'être là. Alors pour clôturer le Festival de Cannes, écoutons Frank Capra, Une vie comme un scénario, un documentaire de Perrine Quervran et Christine Digère.
From Los Angeles, California, the American Film Institute salute to Frank Capra.
The best direction for a motion picture during the year of 1936 is awarded to you, Frank Capra, for your direction of the picture Mr. Deeds Comes to Town.
Well, thank you very much, Mr. Midler. I'm very happy to have this again.
Senator Jefferson Smith, the Boy Rangers are very proud to take this opportunity. We are happy to take
Baya Kasmi, si vous deviez résumer ou pitcher, comme on pourrait dire, la vie de Frank Capra, comme si c'était un scénario, qu'est-ce que vous diriez?
C'est l'histoire d'un petit garçon qui écoute une lettre d'Amérique et qui comprend en écoutant cette lettre de son grand frère d'Amérique qu'en fait seul le docteur qui la lit sait lire et que toute sa famille, qui sont des pauvres paysans, ne savent pas lire et décide d'apprendre à lire. Voilà, ce petit garçon en Amérique qui vit vraiment le rêve américain et qui devient un riche intellectuel. Et le problème, c'est qu'il s'identifie aux pauvres. Donc il fait des films pour essayer de se rattraper. Et dans ces films, les riches sont toujours méchants.
C'est un petit paysan qui arrive aux États-Unis, qui tombe amoureux de ce pays, qui a des grandes difficultés, mais qui croit tellement dans les mythes fondateurs américains que chacun a le droit d'accéder au bonheur, que le travail est récompensé, que malgré toutes ses difficultés, il arrive finalement à atteindre son but. Il est devenu un des plus grands réalisateurs américains et il a romancé tout ça pour donner un côté quasi surnaturel à sa vie, à son histoire. Donc il a fait Mr. Capra aux États-Unis.
C'est un auteur, voilà. C'est un auteur à Hollywood. Il était très fier d'avoir été l'un des seuls, ou l'un des premiers plutôt, à être véritablement considéré comme un auteur-producteur.
Frank Capra, Une vie comme un scénario. Mais surtout, les films de Capra, ce sont de belles images. Des noirs et blancs contrastés, des cadres surprenants, parfois malins, et toujours impeccables. Les films de Capra, ce sont aussi des gens qui traversent l'écran. En dansant, en courant, en se tenant par la main, en clopinant, en tournant sur eux-mêmes, en discutant à bâton rompu, ou en descendant un escalier à cheval sur la rampe. Des individus en mouvement perpétuel. Sauf les hommes d'affaires, qui sont enfoncés dans leur fauteuil, ou assis sur leur bureau, immobiles, massifs, parfois de dos, avec comme seule trace de vie la fumée qui s'échappe de leur cigare. Et puis il y a toujours des femmes qui travaillent, qui pensent, qui rient, qui se trompent, qui décident et qui trouvent des solutions. Et aussi à un moment ou à un autre, il y a un homme qui veut en finir, se jeter à l'eau, sauter du haut d'un immeuble ou se tirer une balle dans la tête. Et enfin, il y a souvent une pluie diluvienne, des corneilles apprivoisées des innocents, des fantaisistes et des scènes d'amour filial entre un père et son fils. Frank Capra aimait tous ses films et l'on contrôlait les moindres étapes selon son principe fétiche, un film, un seul homme. Il mesure ce que son parcours a d'improbable et le raconte en 1971 dans une autobiographie qui sonne comme un programme. Le nom au-dessus du titre. Son nom à lui, Frank Capra.
Bon, la première fois que j'ai lu ce livre, je me suis pas rendue. Enfin, je voulais faire du cinéma et j'étais fascinée par ses films,
Baya Kasmi,
que je voyais depuis que j'étais petite, et par son hyperactivité, par les idées, par la joie de vivre, par cette espèce d'élan qui fait qu'on a l'impression d'être dans la vie tout le temps dans ses films. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, c'est un gamin d'immigré, donc il raconte l'histoire de l'immigration, mais il a trouvé un vecteur totalement universaliste pour le raconter. Donc il est toujours avec des pauvres Américains qui ont l'air très... Vous ne l'emporterez pas avec vous. Finalement, quand on y réfléchit, ouais, c'est une famille d'Italiens, quoi. C'est complètement hystérique, ça pourrait ressembler à une famille de Fellini.
4, 3, 2, 1, bingo!
Finalement, quand on y réfléchit, c'est une famille d'Italiens. C'est complètement hystérique, ça pourrait ressembler à une famille de Fellini. Mais il dit pas qu'ils sont italiens, c'est juste des Américains originaux, bizarres, pauvres, qui inventent des trucs. Voilà, pour moi, il fait du cinéma vraiment pour passer ce truc, de dire... Voilà, je suis arrivée là, je sais pas pourquoi, j'ai fait les choix qu'il fallait faire, parce que j'avais envie de vivre, j'avais envie de gagner de l'argent et de m'amuser. Il se trouve que ça a marché, et il y a toujours le désir de faire passer d'abord de la joie et de l'espoir.
A toast to Mama Dollar and to Papa Dollar, and if you want to keep this old building alone in business, you better have a family real quick.
I wish they were rabbits.
I wish they were too.
Ce qui est beau, c'est qu'il dit « J'étais dans une famille où on accepte les choses telles qu'elles sont. » Et je trouve que tous ces films, ils tournent autour de cette question, c'est-à-dire les gens acceptent leur situation. Au début du film, tout le monde est à sa place. Il y a celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est malheureux, celui qui est heureux. Et lui, il essaye toujours de tout faire bouger. Donc il y a une incapacité totale à accepter les choses telles qu'elles sont, telles que soi-disant Dieu les a voulues. Peut-être ça vient de là, ce côté... chez moi, on dit le mektoub, Inch'Allah, c'est un truc qui me rend dingue. Tous les Arabes disent ça, et mon père, je l'ai entendu dire toute sa vie. « Ah, j'aimerais bien faire ça. Bah, Inch'Allah, on le fera peut-être. » Et puis c'est vraiment le mot qui fait qu'on fait rien, parce que si Dieu le veut, ça arrivera. Et pour moi, Capra, c'est vraiment le cinéaste du... Pas Inch'Allah, de « si je veux, je peux le faire. »
Look, I started at the bottom in this town and I'm going right up to the top. I can outsmart those other monkeys.
C'est dans Milliardaire pour un jour. Le dude qui est un truand explique à sa petite amie Queenie qu'il a commencé au bas de l'échelle mais qu'il va devenir quelqu'un.
I'm going to be somebody, Queenie, and you're going to be somebody with me.
Mon père, il a découvert le cinéma quand il était en Algérie. En gros, pendant la guerre d'Algérie. Et il y avait donc le cinéma français qui passait beaucoup de films américains, des westerns, mais aussi les films de Capra. Et je sais que mon père, il s'identifiait totalement à ça, mais je comprenais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, je le comprends. Je pense que voilà, il y a vraiment chez Capra quand même l'histoire de l'immigration, l'histoire de comment on fait pour exister individuellement dans un fait social aussi énorme. Et puis bon, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'un peu catho quand je le vois aujourd'hui. Et mon père est plutôt croyant, il est musulman, mais il y a quelque chose de beau, toujours, qui met en valeur l'être humain.
George, Terry, you're shaking the house down, stop it!
Oh, let them alone. I wish I was up there with them.
C'est hyper italien, quoi, les familles. Une espèce de bordel pas possible tout le temps. Voilà, évidemment, c'est James Stewart en accéléré. Il est hyper drôle dans ce rôle, je trouve. Enfin, il arrive à faire un truc dingue, c'est qu'il se joue lui jeune, il se joue lui vieux. Alors, il arrive avec des plats sur la tête. Donc, quand on regarde en accéléré,
c'est encore plus fou.
Ah, c'est encore plus fou.
Michel Ciotta, est-ce que vous pouvez peut-être raconter à quoi ressemblait l'enfance et l'adolescence de Frank Capra?
Écoutez, c'est un enfant qui est donc un immigré, hein, qui arrive de sa Sicile natale dans un grand mouvement d'immigration vers les États-Unis. C'est la deuxième grande vague d'immigration composée plus particulièrement des Italiens du Sud, Mezzogiorno, et de la Sicile occidentale, et également des Juifs qui viennent d'Europe occidentale. Alors, les Italiens, en général, ont une adresse, soit dans la petite Italie de New York, soit dans la petite Sicile de Los Angeles, et la famille Capra se rend à Los Angeles. C'est une famille très unie, mais pauvre, et l'enfance de Capra va être une enfance, une adolescence difficile, parce que et peu d'argent, il faut qu'on en trouve d'une manière ou d'une autre, et il va très tôt prendre des petits boulots pour donner l'argent à sa famille, mais il va, contrairement à frères et sœurs, il va, lui, avoir une ambition, et il ne va pas baisser les bras lorsque les obstacles vont s'accumuler. Donc il va faire une scolarité normale et viser l'université. Et il va réussir. Alors bien sûr, dans ses mémoires, il a brillamment passé ses examens pour devenir ingénieur en chimie, ce qui fait que le jeune Capra n'a pas été du tout fondu dans le moule des Italo-Américains nouvellement arrivés, où il fallait protéger ce qu'on appelle l'ordinaire de la famille, le quotidien de la famille. Surtout pas ne se mêler aux Américains, qui sont à leurs yeux massivement des protestants, et qui sont obsédés par l'argent, la réussite matérielle. Donc, à cette époque-là, pour cette vague d'immigrants, il fallait trouver des métiers qui les éloignaient pas trop du domicile. Et le jeune Capra, c'est tout le contraire. Lui, il veut absolument s'intégrer dans le système et réussir.
Et c'est comme ça que les choses se passèrent. C'est ainsi que je célébrais mon 6e anniversaire, le 18 mai 1903, au milieu d'une effroyable tempête en plein Atlantique. Dans le sombre entrepont du Germania, bondé d'immigrants terrorisés, priant et vomissant. Et finalement, après 23 jours sans avoir pris un bain et sans s'être changé, notre famille d'immigrants faméliques et sales embrassa Ben, qui nous attendait à la gare de Los Angeles. Papa et maman baisèrent le sol et pleurèrent de joie. Je pleurais moi aussi. Mais pas de joie. Je pleurais parce que nous étions pauvres et ignorants, et exténués et sales. Puis Ben nous emmena trois pâtés de maison plus loin, jusqu'à une maison qu'il avait louée à Castellar Street. Castellar Street, Los Angeles, l'Amérique. La première difficulté à laquelle doit faire face une famille de paysans ignorants dans un pays étranger est de rester en vie. Pas question d'envoyer les enfants à l'école. Objectif numéro un, le fric. Les espèces sonnantes et trébuchantes, le seul moyen de rester hors de portée du vieux spectre de la faim.
You rented a new house? Rent? You hear what he said, Mr. Bailey?
What's that?
I own the house. Me, Giuseppe Martino, I own my own house. No more we live like a pigs in this Paris field.
One more after.
Marie.
C'est dans La vie est belle. Dans la scène, on voit un petit homme, un immigré italien, Monsieur Martini. Il est fou de joie parce que grâce à Bailey, il est devenu propriétaire de sa maison.
Il y a toujours aussi des paradoxes, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire des études, il s'est dit, en fait, ces études, ça va me mettre à l'abri du besoin, je vais devenir le héros de ma famille et les mettre à l'abri. Mais finalement, ces études de chimie, après-guerre, elles servent à rien, il ne trouve pas de boulot, il est plus ou moins traité de feignant, de feignasse par sa famille, de vrai travailleur. Et du coup, il traîne, il fait tous les états, il fait des petits boulots, il est complètement au bout du rouleau. Et là, il revoit un gamin de Little Sicile qui lui propose, parce que l'alcool est interdit, et il dit on peut se faire pas mal de fric avec ça, mais toi, t'es chimiste et tu pourrais nous construire des alambics qui seraient vachement plus efficaces que les nôtres et on se ferait pas repérer. Et ce mec a de l'argent pour lui. Et lui, il est typiquement dans un dilemme à la Capra. Ce serait James Stewart qui se dit « Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ?» Parce qu'il est toujours pris dans le bien et le mal. Et pourtant, ce mec lui propose pour la mafia d'exercer son métier. Un métier honnête, finalement, faire des alambics. Et au lieu de ça, il se dit, il faut qu'il se passe quelque chose, il monte dans un bus et le chauffeur de bus le voit et lui file le journal qu'il est en train de lire. Et il y a une annonce assez étrange pour les originaux qui veulent changer leur vie, qui est en fait un acteur paumé qui cherche quelqu'un pour l'aider à tourner son film.
Tenez, cette annonce est juste ce qu'il faut pour des types comme vous, lisez là. L'annonce était ainsi conçue. Jour faste pour les originaux. Les astrologues disent que la position des 12 signes du zodiaque est favorable aux rêveurs et à ceux qui savent prendre des risques. Nous avons donc le plaisir d'annoncer à ceux qui croient aux étoiles, le jeu de mots est voulu, que les productions Fireside font savoir qu'elles sont en train de reconvertir l'ancien gymnase juif en studio de cinéma. Rêveurs, à vos horoscopes. Studio de cinéma. Que diable pouvais-je bien faire dans un studio de cinéma? À ce compte-là, que pouvais-je bien faire où que ce soit en ce moment? Et pourtant, ça doit être un appel du destin. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Essayons. Et qu'est-ce qu'un petit mensonge si on n'a pas de quoi manger?
Et là, Capra a deux choix. Soit faire un truc honnête avec des mafieux, et puis il sera le sous-fifre et on risque de lui donner des ordres. Soit mentir et prétendre qu'il sait faire quelque chose qu'il ne sait pas faire du tout, mais dans un espèce de cadre honnête. Et évidemment, il choisit de faire du cinéma.
Et le coup de bluff va marcher, en fait. Pour lequel, d'ailleurs, ses connaissances techniques lui servent énormément. Donc, tout doucement, il va faire son nid dans Hollywood. Ce qui va lui mettre le pied à l'étrier, c'est quand il est engagé par le grand maître de la comédie burlesque, qui est Max Sennett. Et Max Sennett va le mettre à travailler avec une des grandes figures comiques qu'il a sous contrat, Chaplin, qui donne son passé par Max Sennett. Et là, il y a Harry Langdon, qui est une figure un peu moins connue que les autres, mais un comique tout à fait passionnant. Et justement, c'est une figure d'innocent. Ce n'est pas vraiment un bonnet, c'est quelqu'un qui a un regard toujours émerveillé sur la vie, qui est toujours un petit peu décalé par rapport à l'existence. Et je crois que c'est le premier dessin de cette grande figure capresque qui est l'innocent.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Michel Ciotta, que peut-être dès 1925, quand il travaille justement à la création du personnage de Langdon, donc cet acteur du muet, il raconte ça dans son autobiographie, comment il essaye de faire quelque chose de ce comédien qu'a trouvé Max Sennett, dont on ne sait pas quoi faire. Et lui, il se souvient qu'il a lu Le brave soldat Tchvek. Et puis il se dit, finalement, ce qu'il faut, c'est un innocent qui serait systématiquement sauvé par Dieu.
Alors, la politique des auteurs, autrefois au Cahier du cinéma et dans d'autres revues, faisait en sorte que lorsque un cinéaste se révélait avoir une thématique bien particulière et un style aussi bien singulier, on reprenait l'œuvre depuis le début et on avait tendance à dire que tous les films réalisés allaient dans ce sens-là. Alors, avec Capra, on peut jouer à ce jeu et c'est vrai que le thème de l'innocence qui sous-tend pratiquement l'ensemble de son œuvre, se trouve au premier plan du personnage créé conjointement par lui et Langdon chez Sennett pour les trois films qu'il va faire avec lui. Et c'est indéniable que le personnage de Langdon a vraiment été créé par Capra, qui a vu dans son physique, dans son visage poupon, d'enfant très attardé, sur le plan de son rapport à la société, il a vu ce thème de l'innocence. Mais ce thème de l'innocence, il est fondamentalement chrétien, d'une part, mais fondamentalement aussi américain. Selon Capra, on est bon. Hein. Alors que la philosophie américaine est née sur cet adage dans lequel croyait Thomas Jefferson, qui est le père du système américain, idéologique, que l'homme n'est pas né fondamentalement mauvais. C'est dit à l'envers. Ça laisse la porte ouverte à la nécessité de purifier un peu les choses qui, elles, ne sont pas bonnes.
Vous l'avez dit d'ailleurs, Michel Ciotta, ce qui est particulier avec ces personnages innocents qui reviennent dans les films de Capra, on peut penser à ceux incarnés par Gary Cooper ou ceux incarnés par James Stewart, dans Monsieur Deeds, dans Monsieur Smith, c'est qu'ils sont, en tout cas au début des films, innocents, presque stupides, presque attardés.
Oui, c'est pour ça que le parallèle avec Langdon n'est pas faux. Ils ont cette innocence innée, l'un comme l'autre. Et ils se trouvent confrontés à un monde qui est intéressé, surtout par l'argent. Et là, ça va les déstabiliser. Alors pour Deeds, c'est un homme qui vit, il ne vit pas seulement de sa poésie, hein, mais il est à la tête d'une toute petite entreprise, puis il fait cet immense héritage qu'il faut qu'il gère à New York. Et là, il est manipulé par un trust, hein, Cedar & Bellington, qui est la compagnie des avocats qui veulent l'aider à bien gérer sa fortune. Là, il se trouve parachuté dans une Amérique qui est anti-puritaine, anti-chrétienne, et il va donc distribuer sa fortune aux déshérités. Alors tout ça, il le fait d'une manière extrêmement candide, et c'est là où justement le christianisme de Capra se plaque sur l'américanisme, en essayant de rediriger l'Amérique dans la bonne direction de l'innocence.
Perhaps Mr. Deeds would recite one for us.
Yeah, that's a very good idea. Nothing like a poet reciting his own stuff. How about a Mother's Day poem?
C'est dans L'Extravagant Mr. Deeds. La scène se passe dans un restaurant et Deeds, qui est joué par Gary Cooper, est un poète amateur un peu naïf. Et là, il comprend que les gens l'ont invité pour se moquer de lui.
Oh, don't be ridiculous.
Look, he's temperamental.
Yeah? What if I am? What about it?
Gary Cooper a plus d'une fois joué l'innocent, un innocent assez paradoxal.
Christian Viviani.
Le discours est dit déjà par les apparences, en fait. Il est innocent, il a un regard clair, mais le fait que, face aux hommes d'affaires véreux, il impose ce magnifique visage, il y a déjà ce contraste esthétique qui est un discours en soi. Et Stewart est aussi une des grandes incarnations jeffersoniennes du cinéma américain. Alors, l'apport de Stewart est unique dans la personnalité de James Stewart, c'est cette voix trémolo qui va à l'encontre de la voix assurée, mâle, virile, que l'on attribue aux acteurs hollywoodiens et qu'on l'a fait travailler parfois. Et il y a un moment qui est un des grands moments d'acteur de toute l'histoire du cinéma, c'est le fameux discours de James Stewart dans Monsieur Smith au Sénat, où il tient le crachoir, il a plus de voix.
23 heures.
Voilà. La performance est extraordinaire, elle repose sur cette voix qui s'éteint.
I guess this is just another lost cause, Mr. Payne. All you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. Because of just one plain simple rule. Love thy neighbor. You think I'm licked? You all think I'm licked? Well, I'm not licked. Somebody will listen to me.
Le protagoniste des films de Capra, c'est le petit homme, c'est l'homme commun, the common man, l'homme simple. Et le cas de M. Smith, il va découvrir la corruption du système, et là aussi il va se battre contre tout ça pour rétablir l'innocence, et il parvient, comme Thomas Jefferson ou Abraham Lincoln.
Lincoln qui, lui aussi dans sa légende, a cette image de grand échalas, un peu attardé au début de son existence.
Tout à fait, et puis surtout, c'est un personnage qui va avoir une dimension christique avec son assassinat. Donc, c'est un personnage qui va marquer considérablement Capra, dont Deeds et Smith sont inspirés très ouvertement.
Whose statue is that?
I wouldn't know in the daytime.
Well, oh, look! Look at the Capitol Dome, it's all lighted up, look at it!
C'est dans Monsieur Smith au Sénat. James Stewart est avec sa secrétaire et il s'extasie à la vue du dôme du Capitole. Il est complètement exalté et elle est consternée. Et puis, on pourrait dire que James Stewart est presque une incarnation de Lincoln dans sa lenteur quand il parle, dans sa gaucherie, dans son physique très long, ses longues jambes.
C'est aussi pour ça que Frank Capra l'avait choisi. Il y avait vraiment une analogie entre les deux. Et puis cette espèce de pureté. Et puis
David Da Silva.
Capra a toujours mis en scène ce qu'on appelle le philosophe de comptoir. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément fait des grandes études. Et finalement, la base de ce modèle, c'est aussi Lincoln qui incarnait ça. La légende veut qu'il n'ait pas fait d'études, qu'il ait appris tout seul à lire dans la Bible, qu'il soit devenu avocat, etc. Il parlait très lentement, on le considérait comme quelqu'un de très lent d'esprit, il était raillé par les autres. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les films de Capra, que ce soit Mr. Deeds ou Monsieur Smith, il y a toujours le côté condescendant de son entourage qui ne réalise pas son potentiel, un petit peu ce qui arrive aussi à Lincoln. Et finalement, il prouve à la fin qu'il a, que c'est quelqu'un qui avait une pureté au-dessus des autres.
I can't help feeling that there's been a big mistake somehow.
I don't think I'm going to be much help to you down there in Washington, Senator. I'll do my best. Although with all my might, I can promise you one thing. I'll do nothing to disgrace the office of United States Senate.
Le simplet qui va, du coup, changer notre regard sur les choses, qui peut dévier la machine, mais justement parce qu'il est simplet. D'abord, c'est hyper drôle, c'est un moteur de comédie génial. Et ensuite, il maîtrise rien, sans le faire exprès. Il va jamais rien faire de ce qu'on attend de lui, parce qu'il est trop bizarre, en fait. Et ça, je trouve que c'est très fort en termes de comédie. Et même nous, en tant que spectateurs, ça nous permet d'arrêter d'ironiser. Je pense que 9 spectateurs sur 10 se disent « mais il est con ». Donc le premier sentiment du spectateur, c'est de le juger. Et je trouve ça quand même intéressant de retourner le regard et qu'on se dise à la fin « ah ben, en fait, c'est bien d'être un peu idiot des fois. C'est bien d'être gentil, c'est bien d'être naïf. Même se laisser avoir, c'est pas mal. » Parce qu'en plus, ils se font vraiment tout le temps avoir, ces personnages. Ils boivent la ciguë jusqu'à la lie. Ils vous montrent bien à quel point c'est compliqué. Dans la carrière cinématographique de Frank Capra, quels sont justement au moment où il finit sa collaboration avec London, il est un petit peu sur le bas-côté, il a divorcé, il s'est noyé dans le travail, quels sont ses projets, quelle est son ambition ?
Gagner sa vie et continuer dans le cinéma, puisqu'apparemment il s'y plaît. Donc il a l'occasion de réaliser un film à assez petit budget qui est un bide absolument colossal. C'est une catastrophe absolue. Et donc, dit-il, il est mis sur la liste noire. Plus personne ne veut de lui à Hollywood, sauf peut-être justement la Columbia. La Columbia qui est le studio un peu miteux, qui fait des petites productions pas très chères. Donc ils vont engager Capra, le mettre à travailler sur plein de films. Et là, son sens de la technique, de la dramaturgie, son sens comique, etc., vont peu à peu revêtir ses productions à bon marché d'une véritable qualité tout à fait inédite dans les studios Columbia. Et on peut dire que la Columbia, qui est encore un nom important dans le paysage hollywoodien alors que beaucoup de studios se sont effondrés, la Columbia, elle doit tout à Capra, pratiquement. Là, nous avons véritablement un créateur qui a pratiquement carte blanche. Il avait énormément de liberté quand il tournait. Et il en acquiert de plus en plus à cause de ses succès qui s'accumulent à la Columbia. C'est un mariage un peu tempétueux, mais qui va durer une bonne dizaine d'années.
Il fait sa première réalisation en 26, il n'a pas encore 30 ans, et puis il entre donc à la Columbia en 1928. Et en 1931, il rencontre Robert Reskin, qui va être le grand scénariste. Oui.
Alors, la collaboration avec Riskin est décisive. Riskin apporte quelque chose d'autre, c'est-à-dire une dimension humaine à tout cela. Rencontre avec Riskin correspond de façon extrêmement précise avec la rencontre avec Barbara Stanwyck. Stanwyck est une actrice prometteuse, Capra va en faire une star. Riskin va apporter à ce couple un sens du scénario extrêmement corrosif, parfois presque provoquant. Certains de ses films ont eu des problèmes avec la censure. Par exemple, La femme au miracle est un film qui dénonce de façon assez virulente l'artifice des prédicateurs, des prédicatrices qui transforment leur spectacle en machine à sous et en cirque, littéralement. Ou La grande muraille, The Bitter Tea of General Yen, le thé amer du général Yen, une histoire d'amour qui traverse les barrières raciales et qui, pour cette raison, avait été interdite dans tout l'Empire britannique. Ça choquait énormément qu'il y ait une histoire d'amour entre un Chinois et Barbara Stanwyck. Et plus tard, après Riskin, on va voir d'autres personnalités de scénaristes qui vont collaborer avec Capra, et on a toujours des mélanges intéressants, notamment du point de vue politique, parce que Capra était conservateur, était républicain, et ses scénaristes étaient souvent très à gauche. Il y a une ambivalence, notamment sur la question des happy ends, finalement, qui sont souvent de faux happy ends, qui permet une lecture très très vaste. Et donc, le mélange Capra, scénariste de gauche, fait que certains films de Capra pouvaient être exploités en Russie soviétique comme étant véritablement une dénonciation du système américain, alors qu'ils étaient exploités aux États-Unis comme justement la défense de certains idéaux américains.
New York-Miami, le titre français du film, It Happened One Night. Ce film, c'est peut-être ce qui est devenu ensuite le modèle de la comédie romantique, c'est-à-dire ce mélange très particulier d'humour et d'amour, et puis ce côté Cendrillon inversé, c'est-à-dire cette princesse qui tombe amoureuse d'une grenouille.
C'est vraiment un film fondateur, hein, parce que le scénario, les personnages, les situations vont être utilisés et réutilisés à foison. La riche héritière un peu capricieuse, un peu fofolle, qui tout à coup s'affole à l'heure de dire oui au mariage et qui s'enfuit. Le journaliste qui la poursuit, qui sait très bien qui elle est, bah, qui a percé son incognito, qui veut obtenir un scoop et qui va tomber amoureux d'elle. Bah, la touche Capra, c'est cette dimension humaine. La scène de l'autobus avec cette humanité que Claudette Colbert découvre à ce moment-là, ces gens du petit peuple dont elle était complètement éloignée, ça c'est du pur Capra.
Tous les films de Capra représentent l'idéologie populiste. Le populisme américain considère que le peuple doit toujours se méfier d'un petit groupe qui veut le spolier. Et au cinéma, c'est apparu dès la naissance du cinéma avec David Ward Griffith, dès ses premiers films, où il a mis en scène un petit groupe qui essaie de profiter de la misère du peuple. On peut citer notamment son court-métrage « Les spéculateurs ». Qu'on retrouve ensuite, à partir de New York-Miami, il a vraiment mis en scène cette idée du populisme américain, de l'homme naïf, avec un cœur pur, face à la corruption des grandes villes.
Alors peut-être, justement, on peut remettre dans un contexte précis ces cinéastes des années 30 qui font ce cinéma, donc qu'on peut dire populiste, dans les années 30, en pleine crise économique.
C'était en quelque sorte pour rassurer la majeure partie du peuple américain qui était en souffrance au niveau économique. Finalement, il n'y a pas de barrière entre les classes sociales. Quelqu'un de très riche peut se marier avec quelqu'un de très pauvre. Donc c'est un conte de fées un peu naïf et c'est un message qu'on retrouve dans tous les films de Capra. Cette réconciliation des contraires. Et le riche qui va toujours tomber amoureux de la personne pauvre et vice-versa. Et notamment, il arrivait à se réconcilier avec une élite financière. C'est-à-dire qu'il y avait quand même à l'époque une méfiance envers les gens de Wall Street, après ce qui s'était passé en 1929. Et donc, tout le cinéma de Léo McCarré, même John Ford et Capra, c'était de montrer que finalement, l'Américain moyen, malgré ses difficultés, il pouvait se réconcilier avec une certaine élite financière et lui faire prendre conscience de ses erreurs.
Do you mind if I come in?
No, no, not at all. Come right in.
C'est dans Vous ne l'emporterez pas avec vous. Monsieur Kirby, l'homme d'affaires, s'est fâché avec son fils. Il veut empêcher ses fiançailles. Et là, il demande conseil au grand-père de la jeune fille, qui lui conseille de jouer de l'harmonica et de renoncer à l'argent.
And I play on it until that crisis just fades away. Now, let's play a duet, good and loud, and you'll be surprised what might happen.
C'est une nouvelle façon de raconter l'histoire d'amour dans un contexte social.
Grégoire Albon.
Et ce qui est intéressant dans la comédie Screwball, qu'on appelle aussi loufoque, c'est que c'est un mélange de slapstick, c'est-à-dire de burlesque muet, et de sophistication verbale. On va totalement changer les histoires qui ne sont plus des histoires de comédie sophistiquée. Alors, les gens qui adorent Lubitsch ne seraient pas contents de ce que je dis, mais d'origine européenne, princière, les comédies de qu'on appelle les comédies de salon, ça va devenir des histoires beaucoup plus américaines. Et la façon dont Capra, on peut en reparler, travaille sur New York, Miami le montre. Et puis aussi, ça fait remonter le comique sur les personnages principaux. Et cette comédie-là, c'est un travail d'auteur, puisque c'est lui qui avait trouvé, il le dit, hein, il était chez le coiffeur et il a trouvé une nouvelle dans Cosmopolitan. Il s'inspirait essentiellement de ce qui passait dans les journaux, dans les magazines, et ce qui montre aussi que cette fiction populaire, elle passe d'un format à l'autre.
Oui, et puis il y a un intérêt justement pour tout ce qui fait le sel de l'actualité, de la vie quotidienne. C'est-à-dire, voilà, c'était la démocratisation du voyage en bus. Il parle du voyage en bus. Au moment de la crise de 1929, il y a des femmes qui vendent des fruits dans la rue. Il fait appel à Annie. Il se saisit finalement de tout ce qu'il voit aussi, de tout ce qui fait le quotidien américain de l'époque.
Ah oui, parce qu'il veut décrire le common man. Alors, je sais pas si on pourrait traduire par l'homme de la rue. Donc, forcément, il va montrer ça. Et puis, ces comédies screwball du début, elles vont être très, très influencées par le contexte de la crise et du New Deal. On les appelle souvent les comédies du New Deal au début. Donc, c'est ça qui est intéressant, notamment avec la comédie screwball, c'est cette américanisation des sujets. Et on va parler des héros du jour, qui sont les journalistes, les défenseurs de la liberté, en particulier dans les années 30.
Good morning, Union National Bank. Just a minute. The bank was robbed last night. Yeah, over $100,000.
Well, who did it?
I don't know who did it, but the chief teller's in an awful jam.
Call me up later, I'm gonna call up Lou now.
Le grand tournant dans sa vie, c'est quand il est au sommet de la gloire. Son film New York-Miami vient de rafler le maximum. Hein. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film. On ne peut pas imaginer plus. Et là, il déprime, en fait. Il fait une grande dépression et il reçoit la visite d'un espèce de monsieur. Et cet homme lui fait tout un discours sur le fait qu'il doit se rendre utile, que ses films doivent dire quelque chose, doivent avoir un message, qu'il a une mission, littéralement. Et ce qui va en sortir, c'est l'extravagant Monsieur Deeds, qui est effectivement une grande comédie américaine, mais aussi un grand pan d'idéalisme américain.
Je n'avais aucune idée de ce que m'apporteraient les 40 années à venir. Mais je savais, en revanche, ce que j'essaierais de leur apporter. Des films sur l'Amérique et sur le peuple américain. Des films qui seraient ma façon de dire merci à l'Amérique. Je chanterais la complainte du travailleur, du pauvre gars qui se fait rouler par la vie, et celle de la veuve et de l'orphelin. Je prendrais le parti de ceux qui risquent le tout pour le tout, des désespérés. Je prendrais le parti de ceux qui sont maltraités, en raison de leur couleur de peau ou de leurs origines. Je me battrais pour leur cause sur tous les écrans du monde. Que d'autres fassent des films sur les grands mouvements de l'histoire, moi, je ferai des films sur le type qui balaie.
Est-ce vrai, est-ce faux, qu'importe, est-ce un rêve, ou bien est-ce une réflexion personnelle? Il a laissé un flou là-dessus, c'est très intéressant ce flou, parce que finalement, une fois qu'il va obéir à la demande de ce personnage, qui est un personnage christique, hein, ben ça va lui permettre plus tard de le mettre en scène, symboliquement, dans La vie est belle, le « It's a wonderful life », avec le personnage de l'ange. C'est en fait ce personnage qu'il a rencontré ou cru rencontrer. Mais quand on regarde l'œuvre entière de Capra, dès qu'il a cette révélation, il faut qu'il fasse des films chrétiens. Hein. C'est l'idée. En 36, là, il ouvre une nouvelle voie et il va s'y tenir de film en film jusqu'à La vie est belle. Là, c'est le cinéma de Capra, mais c'est un cinéma sous peut-être une influence mystérieuse, christique, dans laquelle il croit depuis l'enfance, et qu'il a fait des concessions au système américain pour réussir. Et maintenant, il faut qu'il fasse vraiment l'œuvre qu'il porte en lui, ou qu'on lui demande.
Sir, if I should accomplish this mission, I mean, might I perhaps win my way?
C'est le début de La vie est belle. On voit le ciel et on entend Dieu qui promet à l'ange Clarence qu'il aura ses ailes s'il arrive à redonner le goût de vivre à George Bailey.
Clarence, you do a good job with George Bailey and you'll get your wings.
Oh, thank you, sir, thank you.
Il ne faut pas non plus interpréter Capra, même s'il met en scène des naïfs. Lui n'est pas naïf, parce que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il dénonce la corruption, il y a la victoire momentanée d'un innocent, mais on sait bien que c'est quelque chose qui va se répéter. Et les excès qu'il met en scène témoigne d'une acuité de regard absolument extraordinaire. La corruption à Washington, par exemple, dans Monsieur Smith au Sénat, qui reste peut-être un des deux ou trois films sur le système politique américain majeur. Ou les excès qui sont dénoncés dans L'homme de la rue, où le capitalisme verse littéralement dans le fascisme, avec des milices privées, etc. Il a un regard sans complaisance.
That man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift.
Oh, dear, dear, his life, then I've only an hour to dress.
Il y a un vrai côté chrétien dans l'idéologie populiste.
Oui, puis c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le fait que certains des personnages, on peut penser justement d'ailleurs à ce discours de M. Smith au Sénat, certains personnages se sacrifient. On a l'impression qu'ils font sacrifice physique à un moment ou à un autre dans le film.
Au niveau visuel, il y a un impact de la souffrance. Donc c'est encore un côté christique, la souffrance pour accéder à un statut supérieur. Donc tous les personnages, même Tordide aussi, hein, qui a une grave crise, etc., avant son procès. Donc il y a le côté souffrance physique, le don de soi pour les autres. Donc il y a le sacrifice individuel pour le bien de la communauté. Évidemment du pionnier qu'on va retrouver dans d'autres films populistes, ensuite, notamment les films populistes sportifs ou les films de boxe, notamment les Rocky, etc., qui reprennent cette idéologie de surpasser physiquement et de l'endurance.
Why don't you write a play about ismania?
Ismania?
Yeah, sure. Communism, fascism, voodooism. When things go a little bad nowadays, you go out and get yourself an ism and only give her Americanism. Let her know something about American. John Paul Jones, Patrick Henry, Samuel Adams, Washington, Jefferson, Monroe, Lincoln, Grant, Lee, Edison, Mark Twain. Things got tough for those boys that didn't run around looking for ism.
Alors peut-être on peut dire, par contre, que un des grands thèmes aussi de son cinéma, c'est la question du patriotisme, et d'ailleurs qui court aussi dans cette autobiographie.
Oui, il est évident que Capra doit tout à l'Amérique et qu'il sera un patriote, comme on en faisait beaucoup à l'époque, mais comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et c'est une déclaration d'amour aux États-Unis, hein, son cinéma, c'est le plus grand pays du monde à ses yeux, etc. Il n'y a que là où un individu qui vient de rien du tout peut espérer devenir quelqu'un de beaucoup de succès. C'est l'expression « from rags to riches », c'est-à-dire des guenilles à la richesse. Ça, c'est le schéma de la réussite américaine qui sera celui de Capra. Donc, ce système étant en place et fonctionnant, il faut simplement avoir de la bonne volonté et du courage pour réussir. On ne peut pas échouer. Et donc, il faut aimer ce pays. Alors, le patriotisme, vous l'avez, par exemple, vous n'en penserez pas avec vous, une famille complètement, une communauté loufoque, vous avez un passage dans la bouche de Lionel Barrymore, où il détruit tous les ismes qui existent, le bolchevisme, communisme, populisme, enfin tous les termes auxquels il peut penser, sauf un seul isme auquel il croit, c'est Americanism. Donc là, c'est tout le patriotisme de Capra qui se trouve dans cette réplique-là, et tous ses films vont dans ce sens-là. Et son autobiographie est un hommage au rêve américain.
Bascule dans l'engagement, bien évidemment, massivement après Pearl Harbor.
Michel Viot.
Capra, à l'époque, il est au sommet de sa gloire. C'est un des plus grands réalisateurs hollywoodiens.
Il a 45 ans.
On lui propose en plus, à ce moment-là, je crois que c'est David O. Selznick qui lui propose de s'investir avec lui dans les artistes associés. Et de prendre à eux deux, je crois, 20% des artistes associés. Donc ça veut dire que, rejoignant Chaplin, Pickford, etc., il deviendrait, d'abord c'est une manne financière supposée quand même extraordinaire, et c'est la gloire absolue si vous voulez. Et curieusement, il dit non à tout ça, pour s'engager. Et il dit dans ses mémoires que il l'a fait aussi parce qu'il sentait qu'il devenait un peu corrompu par l'argent, qui qu'il s'endormait dans le Hollywood clinquant, sonnant et trébuchant, et qu'en même temps, il commençait à s'ennuyer et à se perdre, et qu'il avait besoin clairement de nouveaux challenges. Et on lui dit qu'il va être affecté au service du moral. C'est un service nouvellement créé qui est là pour entretenir le moral des troupes. Alors, Capra est un peu indécis, il comprend pas très bien ce qu'on lui veut, et c'est après avoir rencontré au Pentagone le général Marshall qu'il comprend réellement pourquoi il a été choisi. Et il a été choisi parce que il va y avoir 8 millions de conscrits très très vite, et que ces conscrits n'ont aucune connaissance du fonctionnement de l'armée, et qu'il va falloir, que ce soit des boulangers ou des intellectuels, il va quand même falloir leur expliquer pourquoi ils combattent, et il va constituer une équipe de talents hollywoodiens, la seule au sein de toute l'unité du cinéma des armées.
Et donc ils vont faire 7 longs métrages, c'est ça ?
7 films, dans une rhétorique extrêmement simple, accessible à tous, alors que le niveau d'information divulgué est quand même assez poussé. Il en ressort un message extrêmement simple, qui est la définition du monde libre par rapport au monde de tous les opprimés qui subissent les dictatures dans le monde, que ce soit en Italie, en Allemagne ou au Japon.
Why are we Americans on the march? Is it because of...
Dans ce premier volet de Why We Fight, Capra redit sur fond d'images d'archives militaires et d'animation que les hommes naissent tous égaux et que c'est pour ça et pour la liberté qu'il faut aller se battre.
Lafayette, Kosciuszko, Bolivar, Lincoln. Lighthouses, lighting up a dark and foggy world. The government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Fighting, living, dying, for what? For freedom. That for which men have fought since time began, to be free.
Alors, il faut bien savoir que La vie est belle, qui aujourd'hui est un film culte, hein, qui passe tous les ans à Noël à la télévision, sur une chaîne ou une autre, n'a pas été un succès à sa sortie. Les gens avaient quand même été, la population américaine, marquée par la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui réfléchissaient beaucoup avaient quand même cette culpabilité au-dessus de leur tête après Hiroshima et Nagasaki. L'optimisme qualifié de béat de Capra ne fonctionnait plus. Alors au niveau politique américain, c'est l'époque de la chasse aux sorcières, et Capra avait travaillé avec, entre autres, certains scénaristes qui étaient connus pour leur sympathie communiste. Et Capra était un peu regardé d'une façon... c'était plus le citoyen américain, pur, patriotique, comme certains, la plupart des gens le pensaient à ce moment-là. Ça aussi jouait un petit peu contre lui à cette époque-là, même s'il n'a été absolument pas incriminé. Mais le réalisateur qui avait les mains en or pour faire une succession de succès à l'écran, là, il était vraiment un peu dégommé.
Et regarde, et là, voilà, il se met à pleurer et il prend son fils dans ses bras. J'adore cette scène. Il prend son fils dans ses bras comme un...
Ouais, elle voit bien qu'il y a...
Ouais, il l'embrasse et il est complètement pas bien.
Il lui met des...
Ouais, il lui met des guirlandes partout, il le décore comme un sapin. Mais c'est pas du tout drôle comme ça. Et il devient désagréable, il engueule ça.
Donc là, il essaie de garder son sang-froid, mais on sent qu'il est complètement déprimé.
Non, mais c'est ça, c'est vraiment une scène où il va se défouler sur ça. Sur sa famille, alors qu'on sait bien qu'il fait tout ça pour eux et que... Mais en même temps, il est coincé avec... C'est pas du tout ce qu'il voulait. Parce qu'on va des... on sait que... Je crois qu'on le sait déjà, d'ailleurs, à ce moment du film. Que lui, ce qu'il voulait, c'était partir à l'aventure. Faire sa vie. Et évidemment, il a fait une petite famille dans sa petite maison. Il a repris la boîte de son père. C'est dur parce que c'est... ça raconte beaucoup de choses de la vie, quoi. De la vie de la plupart des gens. C'est-à-dire que c'est ce qu'il aime le plus au monde. Cette famille, en même temps, il représente tout ce qu'il a raté et tout ce qu'il n'a pas pu faire. C'est vrai que c'est le côté très triste de ce film.
C'est vraiment un dépressif parce qu'en fait, il est pris à la gorge. Il n'arrive jamais à se sortir des réalités. Peut-être c'est ce qui est arrivé au père de Capra, qui est quand même mort en travaillant. Ça, c'est vraiment... Le travailleur, en général, ne se sort jamais de... Il a des envies, mais en fait, il faut qu'il nourrisse sa famille. En fait, il est plus dans le devoir que dans ce qu'il aimerait faire.
Why she keep playing that?
I have to practice it for the party tonight, Daddy.
Mom said we could stay up till midnight and sing Christmas carols.
Can you sing, Daddy?
Better hurry and shave.
C'est dans La vie est belle. George Bailey, c'est-à-dire James Stewart, est désespéré. Et du coup, il est en colère. Et il se demande s'il fallait vraiment faire autant d'enfants.
George, what's wrong?
Wrong everything, George. You call this a happy family? Why do we have to have all these kids?
Dad, how do you spell Frankenstein?
I don't know. I asked your mother.
Where are you going?
Going up to see Zeus.
You told me to write a play for tomorrow.
Quand on lit les dernières pages de son autobiographie, il est très dur sur le cinéma américain des années 50, des années 60, corrompu, pornographique, immoral.
Alors, il faut bien savoir que Capra a toujours été réactionnaire. Il a toujours été un grand conservateur. Hein. Même si dans les années 30, c'est Roosevelt qui avait raison, il ne l'admettra pas. Et si on analyse de très très près le comportement du personnage de Deeds, joué par Gary Cooper, il y a des petit compromis rooseveltien, mais c'est beaucoup plus la politique républicaine qui est au premier plan dans ce film-là. Alors, pour lui, le sommet de la décadence américaine, c'est cette lutte contre le Vietnam et puis la contre-culture qui va s'en suivre, les hippies, la révolution sexuelle, le féminisme, etc. Alors ça, il ne peut absolument pas comprendre. Ça pénètre les films, ce système-là, et il va le vilipender et être très 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 dur à l'égard du nouveau cinéma américain, qui traite de la réalité, des transformations de la morale, de la corruption tout azimut. Ça, c'est une Amérique que Capra ne peut absolument plus cautionner.
Welcome to the United States of America, my dear Count. We look forward to your visit with considerable relish. Oh, this is a glorious moment for everyone.
We're a bunch of grabbers, all of us, looking for the best of it. Just once, couldn't we help somebody? Just to help somebody?
That's it! I'm gonna drink to you! You, out! And you, out, out! Both of you, out, out! Come on! That's it, out, out! Bulldog, everybody, out!
Ce qu'on sait aussi, c'était que les films qu'il adorait à la fin de sa vie, donc il était un grand admirateur, c'était les Rocky. Qu'il aurait adoré réaliser. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce personnage-là toute la naïveté des personnages des films de Capra et toute la mise en valeur des mythes fondateurs américains qu'on retrouve dans les Rocky ou dans certains films de Clint Eastwood, comme Bronco Billy aussi, qui était un hommage aux films de Capra.
À quoi ressemble Michel Ciotta la fin de la vie de Frank Capra?
Oh, c'est une fin qui est finalement heureuse parce que il a... un retour en arrière à travers son autobiographie, bon, qui se glorifie lui-même d'un bout à l'autre, mais il est content de sa trajectoire. Il avait tout pour être très malheureux au départ. Hein. Et il l'a été, ça a été dur au départ, mais il n'a jamais baissé les bras. Donc c'est quelqu'un qui meurt satisfait dans sa petite maison de Californie. C'est quelqu'un qui termine sa vie dans la réussite et la reconnaissance générale. Ces films, encore aujourd'hui, sont considérés avec beaucoup d'intérêt et de respect par les nouvelles générations de réalisateurs. Il y a énormément d'innovations dans les films Capra sur le plan technique et esthétique. On l'étudie aujourd'hui avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup à apprendre en regardant les films de Capra. Donc, il termine sa vie satisfait. Et là où il est en ce moment, ben, il sait que la Capra Touch est toujours au premier plan dans les universités américaines, à la télévision.
Non, parce que j'adore la scène de la fin de son autobiographie. Il est riche. Il a été célèbre, mais il est retraité, il fait plus de films. Et il se dit, mais à quoi sert ma vie? Ses parents sont morts, son grand frère qui les a fait venir en Amérique est mort.
Et il se dit, mais en fait, à quoi je sers? Est-ce que tous ces gens, ils étaient pas beaucoup plus intéressants que moi? Et il a une sorte de déprime profonde et il va dans sa voiture jusqu'à la maison de son enfance. Et là, il y a deux pauvres qui sont là sur le perron et qui le regardent un peu de travers. Et lui, il est dans sa voiture, puis il dit pas qui il est. Et c'est ses parents qui ont construit ça, cette petite maison.
Comment aurait-il pu deviner que leur maison délabrée avait été construite par le courage? Le courage de deux paysans d'âge mûr, pauvres comme Job et analphabètes, qui avaient osé faire la moitié du tour du monde pour se mesurer aux formidables difficultés d'un pays inconnu, d'un peuple inconnu et d'une langue inconnue. Et qui travaillèrent comme des bêtes de somme et se battirent comme des lions pour nourrir et vêtir leurs enfants. Et qui les nourrirent, et qui les vêtirent. Et l'un d'entre eux était devenu un metteur en scène de cinéma, et était devenu célèbre, et avait pris sa retraite. Et maintenant, il ruminait son amertume parce que plus personne n'avait besoin de lui. Il me fallait retourner à mes racines pour refaire provision de ce courage paysan dont j'avais grand besoin. De ce retour sortit un livre qui essaie de dire à ceux qui ont perdu courage, à ceux qui doutent ou à ceux qui désespèrent ce que j'avais la présomption de vouloir dire dans mes films. Ami, tu es un divin amalgame de boyaux et de poussière d'étoiles, alors tiens bon. Si les portes se sont ouvertes pour moi, elles peuvent s'ouvrir pour n'importe qui.
What taboos did you break, or what little tricks did you discover?
The taboos that I broke was that they must not rehearse.
For comedy.
This was everybody wanted to shoot.
Ce que j'ai fait et qui a rendu tout le monde dingue, c'est de ne plus faire de répétitions avant le tournage. Les gens m'auraient tué.
They come in, they don't remember that, they know their lines. I don't want them to know their lines. The people should act as if everything was happening now, for the first time.
Je voulais que les acteurs jouent comme si c'était la première fois.
I used to go to the theaters, and I'd see my own film in the theater, and it would be seem slow. So I tried.
À un moment, je suis allé voir mes films en salle, et je me suis rendu compte que tout avait l'air trop lent.
I tried speeding up. I'd rehearse a scene and rehearse in 1 minute. I'd ask.
Alors du coup, dans la ruée, j'ai accéléré le tempo. Une scène qui durait une minute, je la tournais en 40 secondes.
I had this privilege, you see. I ran my own show. I could do anything I wanted. It was just a.
Moi, j'ai pu faire ce que je voulais.
Which is the hell of a thing that others couldn't do. You see, they'd probably do these things too, but I could do them.
Les autres ne pouvaient pas. Moi, je travaillais pour une compagnie désargentée et ils avaient besoin de moi. Et pour la première fois, le public avait un petit temps de retard. Du coup, ils n'osaient pas tourner la tête de peur de rater quelque chose. Merci à Michel Ciotta, David Da Silva, Grégoire Albou, Baya Kasmi, Michel Viotte et Christian Viviani. Prise de son, Jérémy Tuile, mixage, Alain Joubert, Franck Capra, Une vie comme un scénario, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Christine Diger. Low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celle qui était une pianiste de l'ombre, Clara Schumann.